C'est arrivé là, ben c'est chaque semaine un petit retour dans le passé, et c'était dans la nuit du 9 au 10 novembre, et la nuit de cristal avait lieu en Allemagne. De sinistre mémoire, Blaise van der Linden nous fait une petite piqûre de rappel.
La nuit de cristal, ou Kristallnacht, est le nom donné aux violents pogroms anti-juifs qui eurent lieu le 9 et 10 de novembre de 1938 en Allemagne, en Autriche annexée, dans la région des Sudètes, alors occupée depuis peu par les troupes allemandes. La nuit de cristal doit son nom aux éclats de verre qui jonchaient les rues d'Allemagne après ce pogrom, aux vitres brisées des synagogues, des maisons et des commerces juifs pillés et détruits au cours de ces violences. Les violences, justement, elles furent principalement provoquées par les fonctionnaires du parti nazi, les membres de la SA et les jeunesses hitlériennes. Les autorités allemandes décrivirent la nuit de cristal comme une explosion de colère spontanée et populaire en réaction à l'assassinat d'Ernst von Rath, secrétaire dans l'ambassade d'Allemagne en poste à Paris. Deux jours plus tôt, le 7 novembre 1938, il avait été assassiné par Herschel Greenspan, un juif polonais âgé de 17 ans. Celui-ci venait d'apprendre que les autorités allemandes avait expulsé des milliers de juifs polonais d'Allemagne et que parmi eux se trouvaient ses parents, résidant depuis 1911. Dans un premier temps, l'accès à leur pays d'origine leur avait été refusé. Ils avaient été relégués dans un camp de réfugiés près de la ville de Spassin, à la frontière germano-polonaise. Vivant lui-même à Paris clandestinement, Greenspan, désespéré, aurait cherché à se venger de la précarité dans laquelle se trouvaient ses parents, en se présentant à l'ambassade d'Allemagne et en tirant sur le diplomate Ernst von Rath, mourut deux jours après l'attentat, le 9 novembre 38. Par ailleurs, le jour de l'anniversaire du putsch de la brasserie de 1923, date importante du calendrier national socialiste, le parti nazi, assemblé à Munich pour l'occasion, décida d'utiliser l'événement comme prétexte pour déclencher des hostilités antisémites. Le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, l'un des principaux instigateurs des pogroms, laissa entendre à la vieille garde nazie présente que l'assassinat émanait d'un complot de la communauté juive mondiale et annonçait que le Führer avait décidé que les manifestations ne devraient pas être séparées ou organisées par le parti, mais ne devraient pas être entravées si elles venaient à éclater spontanément. Ces paroles de Goebbels semblent avoir été prises pour des ordres et déclenchèrent les pogroms. Après son discours, les dirigeants régionaux du parti envoyèrent des instructions à leur bureau. Des violences éclatèrent dans différentes régions du Reich entre la fin de soirée et le petit matin dans la nuit du 9 au 10 novembre. À 1h20, Reinhard Heydrich, en sa qualité de chef de la police de la sécurité, fit parvenir un télégramme urgent au siège et dans les antennes de la police d'État, ainsi qu'aux dirigeants SA dans leurs districts respectifs, qui contenaient des directives sur les émeutes dans toute l'Allemagne et dans les territoires annexés. La SA et les jeunesses hitlériennes participèrent à la destruction de maisons, de commerces appartenant à des juifs. Nombre des assaillants portaient des vêtements civils pour faire croire que les troubles étaient des manifestations de l'indignation populaire. Malgré les apparences de violence spontanée et le caractère local que prit parfois le pogrom dans plusieurs régions du Reich, les ordres transmis par Heydrich ne pouvait être plus clair. Les émeutiers spontanés ne devaient prendre aucune mesure mettant en danger la vie ou les biens des Allemands non-juifs, ni exercer des violences sur les étrangers. De plus, ils devaient s'emparer des archives avant de vandaliser les synagogues ou d'autres propriétés de la communauté juive et les transférer aux services de sécurité. Les ordres indiquaient également que la police devait arrêter autant de juifs que les prisons locales pouvaient en contenir, de préférence des hommes jeunes et en bonne santé. En Allemagne, en Autriche et dans les Sudètes, les émeutiers ont donc détruit des centaines de synagogues et d'institutions juives. Beaucoup d'entre elles ont brûlé toute la nuit sous les yeux du public et des pompiers qui avaient reçu l'ordre de n'intervenir que si les flammes menaçaient les bâtiments voisins. On estime à 7500 le nombre de commerces appartenant à des juifs, dont la SA et les jeunesses hitlériennes brisèrent les vitrines et pillèrent les marchandises. Des cimetières juifs furent profanés dans nombreuses régions. Les pogroms furent particulièrement dévastateurs à Berlin et Vienne, où vivaient les communautés juives les plus importantes du Reich. Parcourant les rues, les trublions de la SA attaquaient des juifs jusque chez eux et soumettaient ceux qui se trouvaient sur leur chemin à des scènes d'humiliation. Même si tuer ne figurait pas dans les directives centrales, la nuit de cristal coûta de nombreuses vies entre le 9 et le 10 novembre. Le chiffre officiel diffusé par les fonctionnaires allemands après la Kristallnacht est de 91 juifs décédés, mais des études récentes suggèrent qu'ils ont été des centaines, surtout si l'on prend en compte les personnes mortes de leurs blessures dans les jours et mois qui ont suivi le pogrom. Les archives de police de l'époque rapportèrent également un grand nombre de viols et de suicides survenus à la suite de ces violences. Pour terminer, au lendemain du pogrom, de nombreux dirigeants allemands comme Hermann Göring ont critiqué les lourdes pertes matérielles produites par les émeutes antisémites, soulignant que si rien n'était fait, les compagnies d'assurance allemandes, et non les compagnies appartenant à des juifs, devraient supporter le coût des dégâts. Göring et d'autres dirigeants du parti décidèrent néanmoins de saisir l'occasion pour prendre des mesures d'élimination des juifs et leur prétendue influence sur la sphère économique allemande.